Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 29 novembre 2024. À l'occasion des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences a lancé sur ses réseaux sociaux une campagne de vidéos intitulée « Dénoncer l'antiféminisme, c'est lutter contre la violence conjugale ». La campagne met en vedette la chroniqueuse et autrice Catherine Étier, marraine du regroupement. L'objectif de la campagne est de sensibiliser à la montée des discours masculinistes et au lien entre l'antiféminisme et la perpétuation de la violence faite aux femmes. Le regroupement encourage la population à contrer ces discours à l'aide du mot-clic « ça passe pas ». Hier, une quarantaine d'entrepreneurs issus de l'immigration se sont rencontrés au Palace Royal lors de la Journée entrepreneuriale de la diversité ethno-culturelle pour réseauter et échanger sur leur réalité. Janice Stevia Gonkwe, une entrepreneure originaire du Cameroun, remarque que s'établir à Québec est plus difficile qu'à Montréal.
Le réseau est déjà beaucoup plus développé à Montréal. C'était plus facile pour moi d'avoir du réseautage. Ici, il faut les créer au quotidien. C'est clair qu'il y a tellement de programmes, mais souvent, ça ne veut pas dire qu'on va être accepté. Et c'est d'aller au-delà, en fait, de ces refus. Mais le rêve d'être plus fort que ce découragement-là, c'est ça qui fait qu'on est toujours là, debout, pour avancer.
Mais plusieurs experts et entrepreneurs estiment qu'il manque de personnes issues de l'immigration dans le milieu des affaires de Québec. Un reportage d'Alice Zanetta à consulter dans la section Actualité du ckiafm.org. Demain samedi de 10h à 17h a lieu le marché de Noël d'adoption chat sans abri au Patro Rocamadour, situé au 2301 Première Avenue. Quelques 40 artisans et exposants vont accueillir la population. Il y aura bien sûr des articles et meubles pour chats, mais aussi des agendas, de la papeterie, des cartes, des photos, des articles déco et autres surprises et nouveautés, promet Adoption chat sans abri, un refuge éthique pour chats situé dans Limoilou. Le peuple a parlé. Dans un sondage en ligne, 85,7% des répondants ont dit oui à la diffusion de musique de Noël sur nos ondes. C'est le vote le plus décisif depuis l'existence du sondage. Par le passé, le camp du oui l'emportait chaque année par une faible majorité. On a également demandé aux répondants répondantes de se prononcer sur la date à laquelle devrait débuter cette musique. La moyenne des réponses nous mène au 30 novembre. Pour des raisons logistiques, c'est à compter du lundi 2 décembre que nous allons saupoudrer délicatement notre programmation de petites pépites de musique des fêtes. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et ckiafm.org.
Toute simplicité. Je m'en voudrais d'oublier que, durant mon dernier hiver au bord de l'étang, j'eus parfois la visite d'un autre personnage tout à fait bienvenu qui, à une certaine période, vint à pied depuis le village, bravant la neige, la pluie, la nuit, jusqu'à ce qu'il vît la lumière de ma lampe entre les arbres pour passer avec moi quelques longues soirées d'hiver. Un des derniers philosophes, c'est le Connecticut, qu'il le donna au monde. Il avait commencé par colporter les produits de cet état avant de se reconvertir, comme il disait, dans le colportage de son propre cerveau. Et ce cerveau, il continue à le colporter, soufflant son texte à Dieu et faisant honte à l'homme, portant son esprit pour seul fruit, comme la noix son amande. Je le tiens pour l'homme de plus grande foi actuellement vivant. Ses paroles et ses actes postulent toujours un meilleur état des choses que celui auquel les autres hommes sont habitués, et ce sera le dernier à se montrer déçu à mesure que les temps se succèdent. Il n'a placé aucun enjeu dans le présent, mais bien qu'il soit relativement méprisé aujourd'hui, lorsque son heure viendra, nous verrons prendre effet des lois insoupçonnées de la plupart des gens et chefs de famille, ainsi que gouvernants viendront prendre conseil auprès de lui. Un vrai ami de l'homme, presque le seul ami du progrès humain, une vieille mortalité, ou disons plutôt une immortalité, qui rendrait visible, avec une patience inlassable et une foi infinie, l'image gravée dans le corps des hommes, qui ne sont que les moments d'Hécatie ébranlant de leur Dieu. Avec son intellect hospitalier, il embrasse les enfants, les mendiants, les fous et les savants, et il accueille la pensée de chacun, y ajoutant souvent ampleur et élégance. C'est peut-être l'homme le plus saint d'esprit et le moins affligé de manie que je connaisse. Tel il était hier, tel il sera demain. Nous avions jadis flâné et discuté, mettant une bonne fois pour toutes le monde derrière nous, car il n'était inféodé en aucune institution de cette terre, né libre, littéralement ingénus. Vers quelque direction que nous nous tournions, il semblait que les cieux et la terre s'étaient rejoints, car il rehaussait la beauté des paysages. Tout de bleu vêtu, son seul vrai toit était la voûte céleste qui renvoyait le reflet de sa grande sérénité. Je ne vois pas comment il pourrait jamais mourir. La nature ne saurait se passer de lui.
Faudra marcher, marcher vers le nord. Il me faudra marcher sans jamais m'arrêter. Le jour et la nuit sans jamais de répit. La route sera longue, la blessure est profonde. Il me faudra traverser, traverser la frontière, traverser la rivière avant que la lune éclaire. Des myriades d'étoiles pour effacer la peur. Le cœur bat plus fort, il s'arrache à la mort. Pour ma liberté, je vis. Pour ma liberté, il faudra marcher. T'accompagne, c'est ce que m'a dit mon frère. Dieu se cache au loin, très loin dans les montagnes, loin des champs de coton, de nos pauvres maisons. Voilà le marais, il sait où je vais. Il me faudra marcher, marcher vers le nord. J'ai au fond de moi les voix chantant l'espoir. J'ai au fond de moi le regard de mon père. Un radeau de prière et les mains de ma mère. Il me faudra marcher pour ma liberté. Pour ma liberté, je viens, je vis. Pour ma liberté, je vis.
Bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on aura notre philosophe régulier, mensuel, Jacques Sénécal, qui va venir nous parler des philosophes, les philosophes simplicitaires dans l'Antiquité. Avant ça, on a eu, comme d'habitude, de Richard Séguin, pour Ma liberté. C'est une chanson qui parle des esclaves, des fugitifs noirs, qui traversait la frontière pour avoir un havre de liberté au Canada où l'esclavage n'existait pas. Ça nous rappelle que c'est pas nouveau les débats qu'on a par rapport à la frontière. Et il y a des gens qui, comme dans le temps des esclaves, veulent vivre des meilleurs jours en venant s'installer au Canada, aux États-Unis, fuir la pauvreté. En tout cas, il y a rien de nouveau. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, mais nous, les simplicitaires, on fait plutôt la promotion de la journée sans achat. On recommande aux gens, au contraire, une journée par année, de ne rien acheter. Un peu en réaction avec l'excès de consommation que le Black Friday représente. Justement, dans le devoir d'aujourd'hui, on a un article consommé encore et encore. On parle d'un documentaire. Le documentaire Buy Now dévoile ce que les grandes entreprises ne veulent pas vous raconter. Juste à temps pour la frénésie du vendredi fou, un nouveau documentaire dénonce les tactiques des grandes marques pour convaincre les gens d'acheter toujours plus, saccageant au passage la planète en l'inondant de déchets. Manipulés, les consommateurs ont quand même une part de responsabilité, rappellent les experts, invitant ces derniers à repenser leur mode de consommation et à faire preuve de sobriété face aux rabais attrayants de la fin de semaine. Si ces entreprises continuent de faire des milliards, c'est parce qu'on continue d'acheter chez elles encore et encore, fait remarquer Maryse Côté-Amel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. Le consommateur doit prendre conscience qu'il peut avoir un impact positif en changeant sa façon de consommer. Disponible depuis le 20 novembre, le documentaire Netflix Buy Now, The Shopping Conspiracy, s'est hissé en quelques jours parmi les 5 films les plus visionnés sur Netflix au Canada et aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont vite enflammées. Le documentaire de Nick Stacy ayant suscité l'indignation générale. On a eu la COP 29 qui s'est terminée la semaine dernière. Différents articles sont sortis là-dessus. Mais en fait, on n'a pas grand-chose à dire. Cette COP-là, on dirait que pas grand-chose à retenir, sauf qu'on a eu une première entente sur le financement, l'aide aux pays qui sont moins développés, qui vont beaucoup plus souffrir, certains de ces pays-là, que les pays développés des changements climatiques. Et on demandait une justice financière, disons, parce que les pays développés, les pays riches, c'est eux autres qui ont le plus émis, qui émettent encore le plus d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'était pas une COP, disons, qu'on va retenir comme étant un moment charnière au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Une autre réunion qui a lieu ces jours-ci, c'est sur la conférence sur le plastique. Est-ce que la planète luttera enfin contre la menace existentielle du plastique? C'est dans le Devoir de mardi. La pollution provoquée par cette matière est en forte augmentation. Cette conférence est bien plus que la rédaction d'un traité international. C'est l'humanité qui se mobilise face à une menace existentielle, a résumé lundi le diplomate équatorien qui préside les débats, Luis Vallas Valdivieso, au moment où s'ouvrait la rencontre réunissant 175 pays à Busan, en Corée du Sud. Ce rendez-vous est le cinquième et dernier cycle de négociations sur un traité contre la pollution du plastique. Quelle que soit la position des pays sur les moyens à prendre pour parvenir à réduire cette menace grandissante, les chiffres sont les mêmes. La production annuelle mondiale de plastique dépasse aujourd'hui les 460 millions de tonnes et elle devrait au moins doubler d'ici 2040. Malgré les constats de la science, les pays réunis à Busan cette semaine sont encore loin de la conclusion d'un accord qui serait suffisamment ambitieux en raison des visions qui s'affrontent. D'un côté, il y a un peu plus de 60 pays réunis au sein de la coalition de haute ambition qui regroupe des États africains, européens et asiatiques. Ceux-ci plaident pour un traité couvrant l'ensemble du cycle de vie des plastiques, de la production aux déchets. Ils veulent aussi faire inscrire des objectifs contraignants de réduction de la production ainsi que des changements dans la conception afin de faciliter la réutilisation. Le camp adverse, principalement composé de gros producteurs de pétrole, comme la Russie, l'Iran, l'Arabie saoudite, compte peser de tout son poids en faveur d'un traité peu contraignant qui ciblerait le recyclage et la gestion des déchets sans remettre en cause la production. Il faut dire que pour l'industrie des énergies fossiles, le plastique représente une voie d'avenir, notamment dans un contexte d'électrification des transports. L'appétit pour cette matière représente aujourd'hui environ 12 % de la demande pétrolière mondiale et plus de 8 % de la demande en gaz naturel. Alors, ça aussi, c'est à suivre. On est encore dans la rencontre présentement qui devrait se terminer, je pense, en fin de semaine. Enfin, dans le Devoir de jeudi d'hier, un bel article sur les forêts nourricières. Comment faire pousser une forêt nourricière au Québec? C'est suite à la publication d'un livre aux éditions Éco-Société, un beau livre, « Les forêts nourricières, guide d'aménagement pour les communautés », publié chez Éco-Société. Et ça, à Québec, entre autres, on a notre dossier des forêts, des terres des Sœurs de la Charité. Et j'espère qu'on aura un volet forêt nourricière dans ça. C'est un beau concept. Et voilà, alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est dans le Devoir d'aujourd'hui, Devoir de jeudi, 28 novembre. Et il y a aussi le livre « Les forêts nourricières, guide d'aménagement pour les communautés » de Caroline Dufour-Larrivée, illustré par Milica Bazin, aux éditions Éco-Société. Alors, on prend une petite pause. Ah oui, c'est vrai, dernière chose, je vous rappelle qu'on a un café philo vendredi prochain à la librairie La Liberté. Il s'agit de téléphoner à la librairie pour réserver une place, parce que c'est des places qui sont limitées. Alors, c'est vendredi le 6 décembre à 19h. Alors, prendre une petite pause musicale, puis on revient au retour avec Jacques Sénécal sur les philosophes simplicitaires de l'Antiquité.
la complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Alors, c'était La Complainte du Progrès, chanson de Boris Vian, qui est quand même visionnaire, mais cette chanson-là date des années 50 et est toujours très d'actualité, et surtout le jour du Black Friday. Alors, Jacques, est-ce que tu es avec
nous? Oui, je suis là.
Avant de commencer ta chronique sur les philosophes simplicitaires, je veux rappeler là, que tu viens de lancer un nouveau livre, là, Une étoile filante entre deux néants.
Oui, c'est ça. Ça a été lancé par la librairie Poirier à Trois-Rivières la semaine passée. Lancé aussi par, non seulement par la librairie, mais aussi par la Société philosophique régionale au cœur du Québec. Alors, c'est mon dernier essai. C'est sur une série de questions que les élèves m'ont posées dans les dernières 10 années, par exemple. Et je tente de répondre à ces questions-là. Au départ, il y avait 101 questions de vie et de philosophie, mais les contraintes de l'édition m'ont obligé, en fait, de réduire dans un premier tome à 40 questions que j'ai intitulé « Une étoile filante entre deux néants ». C'est un livre qui s'adresse au grand public. C'est des questions essentielles, des questions qu'on se pose tous les jours. Et moi, je réponds le plus succinctement possible, entre 500 mots et 1500 mots à chaque réponse, de sorte que ça fait un petit livre très sympathique, un livre de chevet à se procurer, à lire au moins un chapitre par jour. Vous avez plus qu'un mois de réflexion là-dedans.
Ben oui, puis ça se lit bien. Là, on peut commencer n'importe où. C'est environ
un chapitre. Oui, on peut commencer n'importe où.
Ben oui, 2-3 pages, ça se lit très, très bien. Puis c'est une, c'est comme tu dis, c'est un peu ça aussi qu'on fait des, quand on fait nos cafés philo. C'est une question
oui,
qu'on
c'est
pose.
C'est un peu des questions qu'on se pose.
C'est
oui.
ça. Et on n'arrive jamais à une réponse définitive, mais ça suscite une réflexion. Ça nous fait faire un bout de chemin dans notre réflexion.
Oui. Moi, personnellement aussi, j'ai passé un peu ma philosophie. C'est-à-dire, je ne suis pas dogmatique du tout. Je suis simplicitaire, ça va de soi. Les vieux philosophes de l'Antiquité m'ont inspiré. Montaigne, Spinoza, en fait, tous ceux pour qui le luxe et le lucre est à mettre de côté, est à évacuer. Alors, je suis donc simplicitaire dans ce livre-là. Je suis aussi rationaliste. Je suis sceptique aussi. Alors, parce que je suis sceptique, mais forcément, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de réponse définitive. Comme tous les philosophes, ce livre-là est une recherche de la vérité. Puis, la vérité, ben, on la connaît peut-être jamais, mais au moins, la recherche qu'on en fait nous apporte du plaisir. Alors, c'est pourquoi cette philosophie de vers la vérité, vers le bonheur, est aussi un plaisir, bien entendu.
En tout cas, je rappelle le titre, là, pour ceux qui s'intéressent, c'est « Une étoile filante entre deux néants et autres oui. destinations philosophiques chez aux éditions Fides. » Alors, Jacques, on va commencer notre chronique d'aujourd'hui sur les philosophes simplicitaires de l'Antiquité.
Oui, puis j'ai pas oublié non plus le thème de la saison, les liens.
Oui.
Si on part d'Épicure, qui est le philosophe par excellence de la simplicité volontaire, puisque il nous recommande de satisfaire les biens naturels et nécessaires, et non pas les besoins non nécessaires et non naturels, comme le luxe, le pouvoir, la gloire, et qui apporte beaucoup d'insatisfaction, donc beaucoup de malheur. Alors, si je pars d'Épicure, je pars forcément d'un philosophe qui est matérialiste et qui, au départ, s'est entendu avec d'autres philosophes de l'époque, puisque l'Épicure n'est pas le premier à considérer le monde comme étant une immense agglomération d'atomes. Et ces atomes-là sont en lien les uns avec les autres. Alors, ce sont les premiers liens, finalement, qui constituent l'univers. Et ces atomes-là sont dans le vide, et c'est beaucoup plus tard, au 17e, 19e, 18e, 20e siècle, 21e siècle même, qu'on va démontrer l'existence du vide, puis les liens multiples qu'il y a entre les atomes, puis entre les cellules aussi. Alors, Épicure est donc un des premiers. Épicure et Lucrèce aussi, parce que Lucrèce, c'est l'épicurien latin par excellence, romain par excellence. Il écrit un très, très beau poème qui a été retenu jusqu'à nos jours, même si les écoles épicuriennes ont été fermées pendant l'Empire romain à cause justement du christianisme ou de la christianisation. Mais Lucrèce a tenu le coup à cause justement de la beauté de son poème « De rerum natura », c'est-à-dire de la nature des choses. Alors, les premiers liens pour ces philosophes-là, c'est d'abord les liens du fœtus qui sont à l'intérieur de la mère. La mère qui est un peu le tout dans lequel berce le fœtus, il est nourri, il est logé, il est bien, il est heureux, il vit, il expérimente en quelque sorte le grand bonheur, le bonheur absolu, la totalité, il est satisfait complètement, il est satisfait entièrement, et il est en quelque sorte, le fœtus humain, dans une sorte de continuité. Il est en continuité, il est en lien continuel avec la mère, avec celle qui le porte. Mais vient à la naissance, et cette naissance-là est une rupture grave, une sorte de déchirure, puisque de continuité, il devient discontinu. il devient seul. L'enfant naît seul. Et toute sa vie, il va chercher cette espèce de nirvana perdu à la naissance. Il va donc chercher la continuité. Il va donc faire appel à l'autre, faire appel à la nature. Il va donc tenter de créer des liens avec un grand tout pour retrouver le bonheur, pour retrouver la satisfaction totale qu'il a connue avant sa naissance, à l'époque où il était en pleine gestation. Alors, j'en conclus donc, si je me réfère aux philosophes de l'Antiquité, j'en conclus donc, une conclusion qui est temporaire, bien entendu, puisque tu vas certainement me poser des questions, j'en conclus donc que l'être humain, en discontinuité, va donc chercher une continuité avec le grand tout qui est la nature. Ce grand tout qui est complexe, mais qui peut nous apporter satisfaction et bonheur, finalement. Plaisir et bonheur, joie même. Mais à condition qu'on garde des liens intimes avec ce qui nous entoure, avec ce qu'on appelle la nature, le tout naturel, la terre d'abord, et ensuite l'univers et le grand tout, puisque chez les philosophes épicuriens, il existerait même plusieurs mondes. Alors, dans un premier temps, je veux donc tirer cette conclusion-là. L'être humain seul, en discontinuité, va donc chercher la continuité à créer des liens avec le tout qui l'environne, avec l'univers, avec la nature, finalement. Est-ce que tu as des questions pour
ben, oui, des ben, c'est magnifique, qu'est-ce que tu dis là. Quand on parle de simplicité volontaire, on dit toujours moins de bien, plus de lien. Puis, dans le fond, c'est intéressant, j'avais jamais réalisé, mais c'est vrai que la naissance, c'est une rupture d'un lien. On était connecté avec l'univers avant la naissance. Puis là, on vit l'expérience de la déconnexion. Qui, selon les philosophes, est une illusion, mais l'illusion est forte, là. On la ressent physiquement, cette déconnexion-là.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de difficultés à expérimenter la solitude, parce qu'on expérimente la discontinuité. Mais la meilleure manière, dans le fond, d'arriver à éliminer cette discontinuité-là, c'est de prendre contact avec les autres, puis de prendre contact intimement avec la nature.
Oui, puis c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là des liens comme thématique de l'émission pour l'année. C'est que les simplicitaires, au lieu de s'intéresser au bien, c'est nécessaire de vivre, on a des besoins matériels, mais une fois qu'on a comblé nos besoins de base, c'est plutôt vers les liens qu'on va s'intéresser. C'est là que la richesse de la vie, puis c'est ce qui nous manque toute notre vie. On a besoin de créer des liens, puis de sentir qu'on est connecté.
Puis cette connexion-là, ou ces liens-là, sont multiples, sont multiformes, parce qu'on peut parler des liens entre les atomes, des liens entre les cellules, du lien intime qu'on a eu avec la mère qui nous a portés, puis des liens aussi qu'on doit forcément développer vis-à-vis les autres, pendant toute notre vie et vis-à-vis de la nature. Il y a un petit poème qui m'a beaucoup touché en lisant Lucrèce, c'est que il nous dit que la véritable piété, là, c'est pas religieux, parce que Lucrèce n'était pas religieux, justement. Il était athée, et il le disait sans aucune gêne. Il dit ceci: la piété, c'est pouvoir contempler la nature. Alors, personnellement, genre, quand je me promenais, maintenant, je marche moins à cause de mon corps qui a moins d'énergie, mais quand je me promenais dans le bois, et encore, ça m'arrive de me promener dans le bois, dans la forêt, qui est proche de chez moi, et j'écoute Ave Maria de Caccini, par exemple. Alors, il n'y a pas de parole, il y a juste Ave Maria, c'est-à-dire Bonjour Marie. Puis moi, ben, puisque pas de parole, cette musique-là, ce chant-là, qui est magnifique, je le réfère à la nature même qui est devant moi, dans laquelle je m'y trouve. Alors, l'Ave Maria de Caccini, pour moi, c'est un peu salut, nature, bienvenue, nature, je t'aime, nature, et je crée des liens à ce moment-là avec les arbres, avec tout le végétal qui est autour de moi, et même les petits animaux que je vois courir ici et là. Alors, créer des liens, c'est donc très important. Puis, autre chose aussi qui est assez important, c'est la créature des liens entre les différents mondes. Parce que dans le monde dans lequel on se trouve, il y a le monde des chenilles, le monde des insectes, le monde des mammifères, le monde des poissons, le monde... Bref, il y a des mondes. En plus de notre monde, il y a encore un univers, selon Diogène, non pas Diogène, mais selon Épicure et selon Lucrèce. Et je lis ici, encore une fois, si tu permets, un extrait de Rerum Natura, un grand poème de Lucrèce. N'attendez donc pas ce que crie la nature. Que veut-elle sinon l'absence de douleur? Pour le corps et pour l'âme, un bonheur pacifié, délivré des soucis, affranchi de la peur. Le corps, nous le voyons, se soucie de très peu. L'absence de souffrance est un plaisir exquis. La nature apaisée n'en demande pas plus. Alors, c'est un extrait de Rerum Natura. Moi, je le trouve très beau et qui concorde bien avec la philosophie d'Épicure et qui concorde très bien avec la simplicité volontaire.
Écoute, Jacques, vu que tu as parlé de l'Ave Maria de Caccini, ben on va passer l'Ave Maria de Caccini. On fait une pause.
Ah, ça, c'est super.
Alors, c'était l'Ave Maria de Caccini. C'était Nathalie Choquette. C'est un coffret Eterna Celesta. C'est magnifique. C'est trois CD de la musique classique, de la musique céleste, on pourrait dire. C'est très, très beau. Alors...
C'est cette musique-là qui me donne des frissons, soit dit en passant, me pousse à créer des liens avec l'environnement, avec la nature. Alors, moi, je suggère justement qu'on écoute ça quand on se promène dans la forêt, puis on se rend compte, dans le fond, que l'Ave Maria, dans le fond, c'est l'Ave Natura. Bon, alors, tu allais me poser une question, Jacques.
J'aimerais ça qu'on... Peut-être que tu nous... Ben, on a commencé avec...
Lucrèce.
Épicure. Maintenant...
Je peux parler de Diogène aussi.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je voulais
ben,
qu'on
ouais,
parle
je
de Diogène.
Parler de Diogène. Parce que Diogène, qui vient avant Épicure, a été le véritable sage, dans le fond, qui a exercé, qui a pratiqué par l'exemple le mode de vie simplicitaire. Alors, il demandait, lui, un manteau, une besace, un bâton, puis une grande jarre pour pouvoir s'y coucher. Alors, c'était quelqu'un qui remettait en question la civilisation, la société, la civilisation dans laquelle il se trouvait, parce que il la trouvait trop luxueuse, il la trouvait trop permissive, même d'une certaine façon. Il aurait bien aimé être un peu plus spartiate dans son éducation, dans l'éducation qu'il donnait aux enfants. D'ailleurs, Diogène lui-même a été, lors d'un voyage... kidnappé, puis a été vendu comme esclave. Bon, il a demandé « Qu'est-ce que vous faites de mieux dans la vie? » Il dit « Gouverner les hommes. » Et celui qui l'a acheté lui a permis justement d'éduquer ses enfants. Puis Diogène a éduqué les enfants d'une manière très rigoureuse. Il les habituait, par exemple, à marcher pieds nus. Il les habituait à faire du sport. Il les habituait à écouter de la musique. Alors, dans le fond, Diogène, qui lui, personnellement, se contentait de très, très peu, considérait que le bonheur, dans le fond, c'était tout simplement l'autarcie, l'autonomie d'être soi-même, d'être plutôt que d'avoir. Alors, comme mode de vie, Diogène est vraiment un exemple particulier, là. C'est entendu qu'il vit peut-être à l'extrême la simplicité volontaire, mais il l'a vécu pour vrai. Il l'a vécu dans le bonheur. Il l'a vécu toute sa vie jusqu'à l'âge de 90 ans. Alors, ça veut donc dire que malgré les regards qu'on porte sur lui qui ne sont pas toujours favorables, lui, Diogène, était heureux parce qu'il était justement autonome au complet. Il dépendait de rien. Alors ça... C'est un exemple. Il a beaucoup influencé son environnement. C'est un disciple d'Antisthène, qui était lui-même un disciple de Socrate. Donc, Diogène était, d'une certaine façon, disciple de Socrate. Et il a eu beaucoup d'influence sur d'autres qui sont venus et qui ont fondé le stoïcisme. Cratès, par exemple, Hipparchia, Zénon, et ainsi de suite. Alors, vous avez des grands philosophes stoïciens grecs qui se sont inspirés de ce fameux Diogène. Alors, Diogène est vraiment l'homme sage par excellence, même à nos yeux un peu extrême, mais il était, il faut pas l'oublier, autonome, autarcique et heureux. Faut pas oublier ça.
Oui, puis Diogène, malheureusement, il a pas laissé d'écrit. Il y a des disciples, là, ça s'appelle le cynisme, la philosophie du chien, parce qu'il aimait être en compagnie de chiens. Il disait lui-même qu'il était un chien. Mais
oui.
Malheureusement, c'est comme toutes des légendes qu'il y a autour de lui, puis il y a des choses qui sont pas très glorieuses, et je pas sûr que c'est vrai, c'est plutôt parce qu'il était incompris. Mais par contre, ce qu'on sait de Diogène, c'est qu'il était un philosophe très célèbre dans l'Antiquité, peut-être un des philosophes les plus célèbres de l'Antiquité, au moment de son vivant, et même que, ça c'est de la légende, mais Alexandre le grand Alexandre, il disait, il avait rencontré Diogène, puis il avait dit, « Je t'admire tellement que si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. » C'est quand même
exactement,
pas rien.
Exactement.
Là. C'est quand
non,
même
c'est
pas rien.
C'est pas rien, puis pour montrer justement la liberté, puis la liberté d'expression, puis l'autarcie de Diogène, Diogène, quand Alexandre lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Diogène lui a dit « Au toit de mon soleil. Oui. » Il a dit ça à Alexandre le Grand. C'est quand même extraordinaire. Mais est-ce que c'est vrai?
C'est ça.
Parce qu'on a dit, comme tu l'as très bien souligné, on a beaucoup colporté de légendes autour de Diogène, parce qu'il se promenait beaucoup, à travers le Péloponnèse, en fait, de Corinthe à Thèbes, à Thèbes, à Corinthe, Athènes, Sparte. Il se promenait beaucoup selon la météo, parce que il n'y avait pas de maison. Hein. Alors, c'est une sorte d'itinérant. Et il était un peu comme le chien de l'époque qui appartenait à personne. Et on nourrissait les chiens, on les aimait bien, les chiens, mais on les possédait pas. Alors, puis ça existe encore dans certains pays, d'ailleurs, cette mentalité, cette culture par rapport aux chiens qu'on nourrit, qu'on aime, mais qu'on ne possède pas. Alors, c'était ainsi chez la Grèce, dans la Grèce antique, et on le caricaturait souvent ici. Diogène, c'est comme un chien. Et d'ailleurs, Diogène aimait les chiens, aimait les animaux, et il tentait le plus possible de vivre comme quelqu'un qui est proche de la nature, comme la nature le demande, avec presque rien. Alors, il était Diogène, il n'avait pas rien. On ne pouvait pas dire de lui, il est ce qu'il est parce qu'il a quelque chose. Mais non, il n'a rien. Donc, il est celui-là. Il est Diogène.
Oui, puis il avait un grand amour des animaux. Il les admirait, d'ailleurs. Puis je pense que c'est peut-être ça qui était incompris, parce que même aujourd'hui, même à l'époque, on dit toujours que les animaux sont inférieurs, comment ça, qu'il vit comme un chien. Mais c'est parce qu'il était incompris. Là. C'était un peu radical. Très, très radical, Diogène.
Oui, oui. Mais il a écrit des livres, d'ailleurs, il a écrit plusieurs titres, paraît-il, qui sont disparus. Et on se rend compte que tout en se moquant de la noblesse, de la gloire, puis du luxe et du lucre, comme il le dit, il niait aussi le sacré. Parce que pour lui, tout était naturel. Alors, mais il était aussi pour l'égalité des hommes et des femmes, même s'il n'aimait pas la manière dont se comportaient les hétaïres, c'est-à-dire les prostituées de l'époque, il était quand même pour l'égalité des sexes. Alors, c'est quand même un personnage assez particulier, Diogène, et ce n'est pas pour rien que même au 21e siècle, on en parle encore, et le cynisme actuel, qui est une critique des institutions, qui est une critique de l'establishment. Quand on dit que les citoyens sont devenus cyniques, c'est parce que ils contestent un peu le système établi. Alors ça, c'est tout à fait diogénique. C'est parce que Diogène, justement, vivant avec les chiens, le mot chien, c'est cunis ou cynis en grec, qui est devenu cynisme, et c'est pourquoi on fait le lien, avec raison, avec le cynisme de Diogène et le cynisme actuel. Il existe une différence, bien entendu, mais il y a un lien quand même à faire. Être cynique, finalement, c'est de remettre en question les valeurs, les institutions, les autorités en place. comme le faisait Diogène lui-même, bien entendu.
D'ailleurs, souvent on voit ça, qu'on utilise le nom d'une personne pour représenter quelque chose, mais qui n'a aucun rapport avec Diogène, même c'est le contraire, c'est le syndrome de Diogène, qui est une maladie, on peut dire, les gens qui cumulent des objets, même des... qui remplissent leur appartement. On appelle ça le syndrome de Diogène, mais c'est comme ridicule, parce que le Diogène, il vivait dans le dénuement, il n'y avait rien.
Ben oui,
c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre qu'on appelle ça le syndrome de Diogène, je ne sais pas pourquoi faire.
Oui, mais moi, je pense que... ceux qui accumulent, ceux qui accumulent trop tombent dans un extrême non hygiénique. Puis effectivement, Diogène n'était pas très hygiénique.
Ouais.
C'est peut-être la raison.
Mais on le sait pas non plus. Hein. Il est quand même mort à 90 ans.
Ouais.
C'était peut-être un taureau de l'époque qui
ouais.
C'est ça qui est dommage, c'est qu'on vu qu'il était tellement confrontant, supposément. On dirait qu'on n'a pas... La légende est plutôt négative sur Diogène.
Oui. Négative et en même temps, il est toujours d'actualité. Il est toujours là. Et il a traversé des siècles. On n'a pas d'écrit de Diogène et pourtant, on en parle encore. Il y a Michel Onfray, par exemple, qui a écrit au début des années 1990. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps. Ça fait une trentaine d'années. Un livre qui est très beau, d'ailleurs, qui s'appelle « Le cynisme ». Puis, il est question de qui? De Diogène, bien entendu, puis du cynisme moderne aussi. Mais, encore une fois, de nos jours, on se réfère à Diogène. Diogène va toujours rester un personnage controversé, mais admirable aussi. Parce que, pour une chose, l'autarcie, l'autonomie, la liberté... le cynisme, c'est-à-dire la critique du système en place. Il y a donc beaucoup de vertus qui sont favorables, qui sont positives quand on parle de Diogène, malgré ses extravagances. D'ailleurs, les extravagances de Diogène, c'était pédagogique, d'une certaine façon. C'était pour susciter une attention. C'était sa manière à lui d'enseigner. C'était sa manière à lui de dire aux hommes que je cherche un homme saint, vrai, libre, authentique.
Oui, avec sa lanterne qu'il cherchait.
Exactement.
En plein jour. Et on va prendre une petite pause musicale. Puis on va, au retour, ben, on va conclure sur les philosophes simplicitaires de l'Antiquité.
Bien d'accord.
Toi, que la vie connaît et qui connais la vie, tu viens à mes aguets compter tes tragédies. Dans tes yeux, il y a la mare qui veille à mes soupirs. Dans tes yeux, des guitares. La 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 la, la 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 la, qui chante l'avenir. Passionné, dire ton être ému et ta vie enflammée, ton savoir étendu. Dans tes yeux, il y a la mare
réveille mes soupirs dans tes yeux des guitares. La 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 qui chante l'avenir. Et joie en ton visage, quand je t'aime à mon gré, me fait chaud comme plage sous un soleil d'été. Dans tes yeux, il y a la mare qui veille mes soupirs. Dans tes yeux des guitares qui chantent, qui chantent l'avenir.
Bon, Jacques, il nous reste une minute pour conclure sur les philosophes.
Mais je voulais dire que c'était une belle chanson. Je félicite Jean-Marc Aurel. Je dois dire aussi que si on revient souvent aux philosophes de l'Antiquité, grecs et romaines, les stoïciens, les épicuriens notamment, ben on va pouvoir enrichir la philosophie de la philosophie volontaire, de la simplicité volontaire.
Ah, magnifique. Ben oui, c'est dommage. L'émission est déjà terminée. Va falloir peut-être refaire une autre émission sur les
films. Ben oui, il n'y a pas de problème. Le mois prochain, le thème des liens est très bon.
Excellent. Alors, merci encore, Jacques. Bonne semaine.
Salut bien.
À la prochaine.
Bye-bye.
Bye.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des ressources qui leur permettent de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputedeguerre.ca.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 29 novembre 2024. À l'occasion des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences a lancé sur ses réseaux sociaux une campagne de vidéos intitulée « Dénoncer l'antiféminisme, c'est lutter contre la violence conjugale ». La campagne met en vedette la chroniqueuse et autrice Catherine Étier, marraine du regroupement. L'objectif de la campagne est de sensibiliser à la montée des discours masculinistes et au lien entre l'antiféminisme et la perpétuation de la violence faite aux femmes. Le regroupement